à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Régine Merle, bonjour.
Bonjour.
Régine Merle, dans nos précédents entretiens, vous nous avez parlé de votre parcours de vie. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez été pendant 10 ans avocate et puis que vous avez, alors c'est pas ce qui a déclenché votre le virage, mais il y a eu un moment dans votre jeunesse où vous avez rencontré Dieu, on peut dire quasiment physiquement, une rencontre comme en connaissent certaines personnes, qui est un moment hors du temps, un moment d'extase, et que ça va profondément marquer vos engagements et votre approche de l'aide aux autres et du partage de l'amour en général. Et donc, dans votre vie professionnelle, sans doute à un moment donné, vous vous êtes dit je n'ai pas envie de faire ça toute ma vie, j'ai envie de m'ouvrir davantage aux autres. Donc, vous avez arrêté votre métier d'avocate au bout d'une dizaine d'années. Vous êtes occupé de vos enfants, d'abord, vous en aviez 4. C'est déjà beaucoup de travail quand on veut les éduquer de façon suivie et intelligente. Et puis, parallèlement, évidemment, vous êtes beaucoup impliqué dans tout un tas d'actions. Vous avez repris des études de théologie et vous avez, tout au long de votre parcours, accompagné des personnes, et en particulier des personnes en difficulté, que ce soit à Lourdes ou au quotidien dans votre vie toulousaine. Alors, je voudrais qu'on aborde dans ce dernier entretien le terme de la fragilité. Parce qu'au fond, quand on parle d'aider les autres, c'est souvent vers des personnes fragiles. Hein. On est dans une période de l'histoire de l'humanité où on a valorisé de façon extrême, peut-être survalorisé, je ne sais pas, je ne porte pas de jugement, mais en tout cas beaucoup valorisé les vainqueurs en quelque sorte, les gens qui sont solides, qui sont des rocs sur lesquels on peut s'appuyer, ça c'est des gens formidables et tout. C'est sûrement des gens formidables, je ne critique pas. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas solides, qui sont des gens fragiles, qui, pour des raisons diverses et variées, ont en elles beaucoup de difficultés à surmonter les épreuves de la vie. Et vous, votre engagement auprès de ces personnes-là, qu'est-ce que vous ressentez de cette fragilité ? Est-ce véritablement un handicap dans la vie ou pas ?
Alors le terme de handicap convient, puisque les personnes que je rencontre, la plupart du temps, ont un handicap physique, parfois un handicap mental, et qu'elles nous renvoient à nous-mêmes aussi au handicap que nous masquons dans nos vies, à nos propres limites. Elles ne nous le renvoient pas, évidemment, de façon ostensible, mais leur courage, leur force, leur témérité nous fait relativiser notre propre imaginaire sur ce que nous croyons être. Et en fait, nous renvoient à nos propres manques, à nos failles, à nos faiblesses. J'en veux pour preuve ce livre incroyable d'Alexandre Jolien, le philosophe qui est handicapé, qui était condamné de par sa naissance à, je crois, rouler des cigares dans une société, enfin de manière répétitive, sans avoir d'activité intellectuelle, et qui s'est retrouvé en lisant Socrate avec une dans une direction complètement différente, qui était d'écrire des livres, de tourner des films, d'avoir une vie extrêmement riche, parce qu'il s'est trouvé bien plus fort que ce qu'il croyait être. Il a écrit ce livre Éloge de la faiblesse, que je recommande à tous les auditeurs. Je crois que c'est son premier ouvrage, Éloge de la faiblesse. Et à travers cet écrit, et à travers les rencontres que j'ai pu faire, en fait, je le mesure sans cesse, y compris à travers le parcours de nos enfants. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que j'avais 4 enfants. L'adolescence des enfants n'est jamais très simple. Tout ce qu'ils ont traversé de difficile m'a apporté peut-être encore plus que les moments faciles à moi, leur mère, parce qu'elle a remis en question toutes les certitudes que j'avais pour pouvoir m'ouvrir à autre chose et me déplacer. Et je pense que la vie, à l'origine, n'est autre qu'un déplacement, qu'une dynamique, que la faiblesse nous permet de rester en mouvement, de prendre ce risque jour après jour de mettre un pied devant l'autre, Parce que c'est ça la vie, c'est une prise de risque. Tous les jours, quand nous nous levons, nous ne savons pas ce qui nous attend. Et il y a un risque à vivre, puisqu'il y a un risque à mourir. Si tant est que le terme de risque convienne pour ce passage à l'éternité. En tout cas, il y a un risque. Et c'est la mort qui borde cette vie chaque jour, que nous oublions parfois, et qui lui donne aussi son intensité. Donc la fragilité, la faiblesse, la vulnérabilité font partie du dynamisme de nos vies. Et trop souvent, me semble-t-il, on a tendance à l'ignorer. Et lorsque nos amis malades ou handicapés nous disent « voilà, je sais que je ne pourrai jamais faire cela » ou « que je vais peut-être bientôt partir », ça redonne du sens à ce que nous vivons nous-mêmes. Et le sens n'est pas non plus éloigné de la faiblesse et de la fragilité. Il donne toute sa mesure à la qualité de nos vies. Dans une vie toute puissante et éternelle, je crains qu'il n'y ait plus aucun sens à donner à ce que nous faisons, puisqu'il n'y aura plus de crainte, puisqu'il n'y aura plus rien à construire, il n'y aura plus qu'à consommer, et nous serions dans une sorte de... serions pétrifiés dans un instant infini, sans avoir
ça,
à cheminer.
C'est un film d'horreur dont vous nous parlez.
C'est un film qui peut-être peut se dessiner avec l'IA, avec beaucoup de choses. Alors, il n'y a pas que des mauvaises choses dans l'IA. Mais c'est, en tout cas, c'est un parcours que certains essayent d'ores et déjà de construire, d'avoir,
oui,
dans une sorte de vie éternelle, d'ores et déjà ici-bas. Mais cette prétention-là, elle vient mettre, comment dirais-je, une illusion totale sur ce qu'est la qualité de nos vies. La qualité de notre vie, elle vient justement de cette faiblesse. Elle vient de nos manques. Parce qu'à ce moment-là, nos vies se font réception. Lorsque, pour revenir à cette rencontre du Christ, je me suis rendue à la basilique, j'étais en creux, j'étais en demande. Quand il y a du plein, quand il y a quelque chose de complet en nous, nous ne pouvons pas recevoir, nous ne pouvons pas appeler, nous ne pouvons pas demander, nous ne pouvons pas rencontrer. Nous avançons dans notre plein avec cette espèce d'assurance qui fait que rien ne peut se produire dans nos vies. Nous maîtrisons, nous sommes en totalité, nous sommes un peu comme Dieu.
Ouais.
Et là, Dieu ne peut pas se manifester.
Les hommes se sont toujours pris, mais alors aujourd'hui peut-être plus que jamais, pour Dieu, ou ont cherché à se prendre pour Dieu. C'est vrai que vous parliez de l'intelligence artificielle, de ce qu'on appelle l'homme augmenté aussi, où on essaye par différents moyens techniques d'augmenter l'individu. C'est une vieille histoire finalement, hein. C'est l'histoire de la technique, on le voit déjà dans les mythes grecs où la naissance du Minotaure au fond est le fruit d'un désir humain et d'une technique. Donc déjà les Grecs décrivent cette situation à laquelle nous n'échappons pas aujourd'hui, de vouloir être des surhommes, c'est-à-dire nous prendre pour Dieu. Et je crois que la religion catholique, justement, doit, normalement, si on suit la parole du Christ, nous prémunir contre ce genre de risque. Mais c'est un risque qui est toujours présent. Alors c'est vrai que dans ce monde de l'homme augmenté, de l'homme accompli indéfiniment, il n'y a plus de place. J'aime beaucoup ce que vous disiez, nous sommes pleins. Il n'y a donc plus de place pour le doute, pour la fragilité, pour le reste. Et au fond, ce que vous nous dites, c'est la fragilité qui va nous amener à nous questionner, qui va nous amener au doute et qui va nous amener à nous ouvrir finalement aux autres, plus que si nous sommes pleins, et pleins de nous-mêmes. C'est bien ça?
Oui, et à l'accueil de la grâce.
Ouais.
Heureux les fêlés, parce qu'ils laisseront passer la lumière. Ça veut tout dire.
Ah oui.
Ça veut tout dire. Et cette capacité-là ne peut pas se faire si nous avons tout. Et je pense vraiment que c'est une chance que cette fragilité, qu'elle nous humanise, qu'elle fait de nous des êtres en devenir.
Et vous voyez, en vous écoutant, je repense évidemment à ce terme très à la mode actuellement qui est celui de l'inclusion, où on nous dit qu'il faut absolument accepter les autres, leur faire une place, etc. Mais en fait, derrière ce terme qui peut amener à un communautarisme excessif, exacerbé, qui est sans doute pas pas la bonne voie pour exercer la véritable fraternité. Derrière ce terme, il y a une chose qui manque, c'est justement la fragilité. Et inclure les personnes fragiles, personne n'en parle, ou très peu. Inclure les personnes différentes, c'est pas la même chose qu'inclure les personnes fragiles. Et ce que vous nous proposez à travers vos réflexions, c'est ça finalement,
oui.
C'est d'inclure la fragilité dans notre amour des autres.
Oui,
oui.
Comme une chance, compris pour nous-mêmes.
Y compris pour nous-mêmes.
C'est-à-dire reconnaître aussi nos fragilités, ne pas en avoir peur et avoir cette humilité de pouvoir regarder en face nos faiblesses et nos failles pour en faire quelque chose de dynamique, de tonique, qui nous tourne vers l'autre et qui nous permet de l'accueillir également. J'aime beaucoup cette phrase qui dit « Nos blessures nous ouvrent à celles du monde ». Quoi de mieux que pour nous tenir la main que de partir finalement du plus petit dénominateur commun pour envisager le plus grand, qui est celui de l'amour fraternel.
C'est une très belle parole de conclusion. Merci Madame Merle.
Merci.